Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ces Garçons-là. Alors cette semaine, je vous propose de rencontrer Nicolas. Il est sociologue, il est rédacteur en chef de Frustration, le mag. Il est aussi, entre autres, l'auteur du livre Parasite qui vient de sortir cette semaine d'ailleurs en format poche. Enfance, en Charente, engagements sociaux, études, coming out, expérience de l'école, cinéma, manif pour tous, écologie, patronat, bourgeoisie, pouvoir de vivre, syndicalisme. C'est une rencontre très riche, humaine, engagée, cette semaine que vous allez faire avec Nicolas Framont, mon invité.
Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Nicolas, tu connais la première question, elle est rituelle. Quel est le plus ancien souvenir que tu aies de toi dans ton enfance ?
Le plus ancien souvenir, je pense que c'est un souvenir avec mon chien de l'époque, qui s'appelait Tanguy. Voilà, je passais beaucoup de temps dehors avec lui, et je pense que mes vraiment tout premiers souvenirs, c'est des promenades avec ce chien, et sans doute mes parents, mais j'étais très fusionnel avec ce chien-là, ouais.
C'est étonnant parce que tu as cité le chien, les promenades et les amusements avant tes parents, et pourtant tes parents étaient présents.
oui, non mais c'est vraiment des images mentales, voilà, d'été, là où vivaient mes parents, où ils vivent encore, dans une ferme, avec le chien. Et oui, je crois pas que ça soit le premier souvenir, ça soit avec mes parents, c'est vraiment le chien, c'est marrant, hein.
C'est étonnant. Et c'est marrant, il y a quelque chose que je perçois chez toi autour de la nature, un rapport particulier avec la nature, c'est vrai, ça s'est construit là dans l'enfance chez toi ?
Oui, parce que j'ai grandi à la campagne, donc en fait, mes premières expériences, c'était des expériences de soit de campagne, soit de toute petite ville. Mmh. Donc, la ville, pour moi, c'était quelque chose... D'ailleurs, ça a toujours été quelque chose d'étrange.
Ça l'est toujours ?
Oui, ça l'est toujours. Enfin, j'adore ça pour plein de raisons, mais je trouve ça étouffant. J'aime pas ne pas voir l'horizon, etc. Et ça, c'est resté vrai toute ma vie, quoi. Et ça vient effectivement sans doute du fait que j'ai passé mon temps à jouer dehors, à faire des cabanes dans les arbres, ce genre de choses que font les gamins de la campagne.
T'as reçu quelle éducation dans cet univers-là, dans cette ferme, puisque tu as mentionné la ferme de tes parents, c'était plutôt quel type d'éducation ?
À l'époque, donc, on vivait dans une ferme, mais ils ne l'exploitaient pas encore. Ils étaient commerçants, donc je dirais une éducation... comment qualifier leur éducation ? Un mélange de... une éducation assez à la cool et en même temps... assez stricte sur pas mal de choses, assez prescriptrice sur pas mal d'aspects, sur le bon goût, le mauvais goût, etc.
Ah ouais.
Mes parents étaient à ce moment-là en pleine ascension sociale, donc c'était, je dirais quand même, j'en ai pas mal parlé avec eux depuis, on l'a déconstruit ensemble, mais c'était quand même l'éducation, une volonté, ce que Bourdieu appelle la bonne volonté culturelle, quoi. Quand même une volonté d'intégration dans une sorte de culture bourgeoise, même si par ailleurs la culture un peu petite bourgeoise étroite, ça, ils aimaient pas. Mais ils avaient quand même ce truc de faut s'élever socialement, faut réussir, il faut se cultiver. Donc je dirais quand même un peu snob sur les bords, même si on venait pas d'un milieu bourgeois. Moi-même quand j'étais gamin, j'avais plutôt ce truc de volonté, un peu des goûts un peu élitistes, j'aimais bien les trucs un peu classiques, etc. Oui, peut-être quelque chose comme ça. Mais ouais, il y avait un peu de snobisme social et en même temps une forme de spontanéité dans les rapports humains. Ça reste vrai, c'est que par contre, on n'était pas du tout pris dans les carcans d'une éducation qui impose un certain type de loisirs ou un certain type de relationnel. C'était assez libertaire par d'autres côtés. Donc c'était un mélange bizarre.
Des frères, des sœurs ?
Oui, une grande sœur et un petit frère, donc je suis au milieu.
Et c'est la bonne place, le milieu ?
Je sais pas, je crois que les trois ont des avantages. On dit souvent que celui du milieu, c'est le chieur, ce qui me correspond bien.
T'as des rêves à l'époque ?
Des rêves très enfantins. J'ai longtemps voulu être pilote de ligne. Ouais, dans l'aviation civile. Donc voilà, voler, des grands explorateurs, les bateaux, les animaux, des trucs comme ça, très champêtres, quoi.
Et plutôt bon élève, du coup, on peut l'imaginer, ou vraiment dans la moyenne et...
Franchement, il y a eu des hauts et des bas. Non, j'avais mes points forts. J'étais très bon en français, ce genre de discipline écrite. Mais par contre, j'ai toujours été un cancre en maths. Donc, élève, je dirais, moyen avec quelques zones de brillance. Pour ça, on peut dire que j'aimais bien apprendre des choses. J'adorais l'histoire, j'adorais la géographie. J'étais avare j'avais une soif de connaissances quand j'étais gamin et ado. Mais par contre, il y avait des choses qui me révulsaient complètement. Et mon expérience de l'école était globalement négative. Comme plein de gens, j'ai trouvé que c'était un univers un peu carcéral, autoritaire, et j'ai pas aimé ça. Voilà.
C'est marrant parce que tu viens de dire, il y a des choses qui me révulsaient et il y a toujours des choses qui te révulsent et qui, pour lesquelles et contre lesquelles souvent tu t'engages. Il y a des choses, il y a des points communs, des choses qui n'ont pas évolué, qui déjà à cette époque-là te posaient problème et te posent encore problème maintenant. Tu as parlé de l'école, mais j'imagine que ce n'est pas la seule chose.
Oui, l'autorité, l'autoritarisme. Parce
C'est
que
vrai.
je ne sais pas s'il y a des bonnes autorités, mais l'arbitraire, moi, ça m'a toujours dégoûté. La légende familiale dit que j'aurais envoyé péter une grand-tante qui me donnait un ordre et que je lui aurais dit « je suis pas ton esclave » à 4 ans. Voilà, c'est une histoire qui est restée. Alors, je ne sais pas à quel point elle est vraie. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu cette rébellion par rapport à tout ce qui est affirmation péremptoire, ordre, voilà, ça m'a toujours. Oui, j'ai toujours eu de la distance par rapport à ça, et c'est un sujet sur lequel j'aime bien travailler. Par exemple, est-ce qu'on a besoin d'avoir des chefs? Moi, je crois toujours pas, et je pense que déjà à l'époque, je croyais pas à ça. Donc, tout ce qui était des entraves à la liberté et qui était de nature arbitraire, j'avais du mal à les accepter. Tout comme des choses qui me révulsaient. Oui, j'avais beaucoup de mal avec un peu le conformisme de groupe. Le conformisme de
De
groupe,
classe aussi.
de classe aussi, mais d'une façon générale, un peu les dynamiques de groupe, déjà gamin, me stressaient.
T'étais plutôt solitaire comme enfant?
Bah, je pense que j'étais solitaire par nécessité. C'était pas que j'avais un goût particulier pour ça, mais par contre, j'avais vraiment du mal avec les dynamiques de groupe entre les gamins, que je trouvais cruelles, excluantes. Voilà, par exemple, j'avais beaucoup de mal avec le virilisme de l'école, du collège, etc. Donc, c'est ce genre de dynamique vraiment délétère auquel je pense. Et ça m'est resté quand même.
Dans l'adolescence, ça se passe plutôt bien. Tu restes dans la même zone géographique ou tu bouges un petit peu en France?
Non, je suis resté jusqu'à mes 18 ans en Charente-Maritime. J'ai changé de ville. J'ai donc été au collège à Rochefort-sur-Mer, qui est une ville connue pour le film de Jacques Demy, mais qui est beaucoup, beaucoup plus triste que dans la comédie musicale.
Mince
Ouais,
alors.
voilà. Je le dis pour les gens qui voudraient y aller pour lui rendre hommage. C'est quand même un peu plus gris.
Voilà.
Et puis ensuite, j'étais au lycée dans une petite ville à côté de chez mes parents qui s'appelle Saint-Jean-d'Angély, vraiment une toute petite commune rurale. Voilà.
Parlons de Jacques Demy, puisque tu cites Rochefort et Demoiselles de Rochefort. C'est un film très coloré, Les Demoiselles de Rochefort. Tu l'as vu assez jeune?
Oui, parce que il a été tourné quand ma mère était gamine. Toute ma famille côté maternelle vient de Rochefort, c'est vraiment leur berceau, donc c'était vraiment un film qu'ils appréciaient beaucoup. Je l'ai vu gamin et je l'ai vu plusieurs fois. Ça faisait partie des références incontournables.
Et alors référence dans la famille, mais ça t'a marqué quand même. Tu t'amusais peut-être à retrouver les lieux de tournage. Même l'histoire peut-être t'a marqué.
Oui, alors l'histoire m'a marqué. Pas tant les lieux de tournage, parce que en fait, je les connaissais, ils faisaient partie de mes trajets quotidiens pour aller au collège, ce genre de choses. Mais par contre, ouais, j'étais marqué par le romantisme échevelé de ce genre de film, et je reste hyper marqué par ça, et ça a beaucoup joué dans ma construction ou identitaire, ou beaucoup.
Justement.
Voilà. Je pense que très tôt, j'étais tombé amoureux du marin qui est joué par, je sais plus comment il s'appelle, enfin, super blond, super
Ah oui,
beau,
exact.
et
C'est
très
mon
niais,
lieu.
quoi. C'est vraiment l'amoureux transi niais. Voilà, moi, ce genre de
Un peu
personnage.
cucu quand
Oui,
même.
c'est très cucu, ouais. Ça m'avait vraiment marqué. Je sens, dès gamin, j'étais complètement fasciné par ça. Je trouvais ça trop bien, quoi.
C'est marrant parce que tu parles de tes sentiments jeunes pour cet acteur. Tu t'en es rendu compte assez tôt parce que là, t'as quel âge quand tu te rends compte de ça?
Bonne question, hein. Finalement ça devait être tôt, hein. Mais c'est pas pour autant que je l'ai intégré dans un ensemble de révélations sur mon orientation sexuelle. C'était là, et c'était un peu un truc à moi. Et moi, mon orientation sexuelle, c'est quelque chose que j'ai maîtriser et accepter beaucoup, beaucoup plus tard, hein, vers mes 25 ans, en fait. Tout avant, c'était, les choses étaient beaucoup plus floues dans mon esprit. C'était pas clair du tout, quoi.
Pas clair du tout parce que un manque peut-être de rôle modèle, peut-être une difficulté aussi de l'assimiler, puisque tu parles de la Charente-Maritime, on va le dire, dans des communes plus rurales comme en Charente-Maritime ou...
Ben, je ne sais pas si c'est lié à des communes rurales ou si c'est partout. Je pense qu'en réalité, sur ma génération, il y avait très peu d'endroits où c'était tranquille. Hein. Je pense que ça ne l'était pas. Je pense que j'ai grandi dans une culture homophobe, pas homophobe agressive, mais qui considérait quand même que c'était une anomalie, un problème et pas quelque chose de cool. Mmh. Ça, c'est sûr et certain. C'est des propos qui étaient tenus régulièrement dans ma famille. Encore une fois, qui n'étaient pas des propos haineux, qui étaient des propos...
C'est comme ça.
Ouais, mais c'était vraiment pas un truc cool qui était censé nous arriver, quoi.
Genre une homophobie ordinaire, quoi.
Oui, voilà, une homophobie ordinaire, pas militante. Ouais. Et puis ensuite, j'ai été toujours dans des établissements scolaires où l'homophobie était hyper présente sur les insultes, etc. Là, c'est vraiment un récit... Moi, je me retrouve dans tous les récits que les gens font quand ils parlent de ça. C'est exactement ce qui m'est arrivé à moi aussi. Donc, c'était quelque chose qui était antagoniste, quoi. Fallait plutôt pas être gay. Et puis en plus, oui, l'absence de, on peut dire, de rôle modèle. C'est-à-dire que moi, je me suis identifié très longtemps, quand je parlais des Demoiselles de Rochefort, tous ces films avec des romances hétéros, moi, m'ont forgé mon identité sentimentale. Mm-hmm. Et donc, je voulais vraiment avoir ce type de relation-là. Je m'identifiais vraiment à des personnages hétéros tout le temps. Et comme j'étais très influencé par la fiction, longtemps, ça m'est resté comme ça serait vraiment mieux, quoi.
On va revenir sur tes engagements. La sociologie, ça vient quand ? C'est un besoin d'étudier, de mettre des mots sur des mots, M-A-U-X aussi peut-être ?
Oui, la sociologie, c'est un truc, quand on en fait la découverte, qui est un peu... qui fait voir le monde autrement, quoi. Donc j'ai découvert ça au lycée, à travers les cours de sciences économiques et sociales. J'ai eu la chance d'avoir des enseignants qui... J'ai eu la chance et d'avoir des bons enseignants, et dans une période d'ébullition, il y avait beaucoup de mouvements sociaux, dans les années 2005-2006. Ça permettait de comprendre notamment des choses comme les inégalités scolaires. Voilà. Pourquoi ce sont toujours les mêmes qui réussissent et pourquoi toujours les mêmes qui échouent ? Cette question-là, on peut y répondre de façon individualiste et morale et dire il y a ceux qui ont bien travaillé et puis il y a ceux qui ont mal travaillé.
Oui, mais ça, cette réponse-là, elle ne te convient pas.
Mais non, parce qu'elle est fausse. Voilà, elle est entièrement fausse et tout le monde en fait l'expérience, en fait. La sociologie, elle rejoint des expériences qu'on fait déjà quand on est un peu sensible aux injustices. On voit bien que les choses ne sont pas si nettes, que ceux qu'on stigmatise comme étant les perdants, ils ont des raisons de l'être. Et la sociologie, elle vient éclairer ça en donnant une consistance scientifique à des sensations qu'on a déjà. Et moi, pour moi, la sociologie, c'est pas une science qui est déconnectée de la vie ordinaire. C'est très lié à la vie ordinaire. Et je vais pas dire tout le monde fait de la sociologie, mais un peu quand même, en fait. On fait tous des raisonnements collectifs où on se dit, on voit bien que ce sont ceux qui ont un certain type de prénom qui vont avoir tendance à occuper des postes supérieurs, d'autres non. Je sais pas, des choses comme ça.
La sociologie, c'est quand même pas être dans un bar et regarder les gens et s'imaginer des choses. C'est pas ça, la sociologie. Parce que tu dis, tout le monde fait de la sociologie. S'asseoir sur un banc et juger ou imaginer les gens, c'est pas de la sociologie quand même.
Pour moi, c'est de l'ébauche de sociologie. Évidemment, dans sociologie, il y a la dimension scientifique, c'est-à-dire qu'on se met à étudier ça de façon plus systématique, oui, en mettant en place une méthodologie autre que s'asseoir sur un banc et regarder. Mais je veux dire, la sociologie, c'est un champ académique encadré par un certain nombre de normes et d'auteurs et de références clés, etc. Et ça se déroule ensuite dans un cadre universitaire. Moi, j'estime que beaucoup de gens tiennent des raisonnements sociologiques. Après, ils ne le font pas forcément de façon systématique, mais ça existe déjà dans la société. Et j'ai pas eu l'impression, en étudiant la sociologie, de connaître vraiment des mystères absolus que personne n'était en capacité d'atteindre. Peut-être comme ça peut le faire pour des physiciens, par exemple, qui, eux, vraiment sont au courant de phénomènes dont nous autres n'avons pas la moindre idée ni la capacité de les comprendre. Pour moi, la sociologie, c'est une science qui est quand même beaucoup plus accessible, et c'est ça que j'aime aussi, quoi.
J'imagine que là, quand tu commences à travailler sur la sociologie, il y a plein de choses qui vont intimement dans toi te faire bondir, enfin te hérisser le poil, ça, tu vas pas en rester là.
Oui, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on peut, et j'ai découvert, moi je pensais qu'à partir du moment où on étudiait la sociologie, on devenait révolutionnaire, quoi. En fait, c'est pas le cas, hein. J'ai évolué dans le monde universitaire pendant quelques années, j'ai vu des gens très conformistes qui sont vaguement révoltés par l'ordre social, mais pas plus que ça. Bon.
Mais toi, tu as choisi
Oui.
vraiment de t'engager.
Bah moi, j'ai choisi pour ça. Même j'ai fait de la sociologie parce que j'étais déjà révolté par la situation. J'aurais pu faire une autre science si ça avait pu aider, et peut-être que d'autres auraient pu aider. Mais en fait, ce que je trouvais dégueulasse, vraiment, je continue de trouver, quoi. C'est la captation du pouvoir et des richesses par quelques-uns. C'était vrai quand j'étais gamin, c'était vrai quand j'étais enfant, c'était vrai il y a un siècle, il y a 2 siècles.
Et ça l'est
Et
toujours.
ça l'est toujours encore plus. Et pour ça, la sociologie, comme l'économie, permettent de comprendre certains mécanismes et de les dénoncer. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai fait de la sociologie, moi. C'est vraiment pas juste pour comprendre le monde. C'est vraiment dans la perspective de Marx, hein. C'est comprendre le monde pour le transformer, pour mieux le transformer.
Est-ce que tu penses que ce monde dans lequel on vit, qu'on voit défiler sous nos yeux, est-ce que tu penses qu'on peut encore maintenant le changer à notre niveau?
Oui, complètement. On peut même encore plus le changer que quand j'étais gamin ou ado. Les choses ont plutôt évolué dans le sens d'une clarification des rapports sociaux. On a eu une phase dans les années 90-2000 où le discours dominant avait tellement infusé dans la société que tout le monde était convaincu que avec du travail et on va dire quelques astuces, on pouvait s'en sortir. Maintenant,
Ça, c'était le modèle un peu américain,
Oui, le
ça.
modèle un peu américain, mais ça a fonctionné pendant quelques temps. Ça a été un discours qui a été un peu hégémonique dans les années 80-90 et qui a infusé au sein de la population. Et c'est plus le cas maintenant.
Bah, faut dire qu'on nous l'a montré quand même beaucoup dans les séries, etc.
Oui, et ça reste le cas. Ça reste le cas. Mais pour autant, je pense que beaucoup moins de gens sont dupes du système d'inégalité et de lutte des classes dans lequel on vit. On a eu des gros mouvements sociaux comme les Gilets jaunes qui ont prouvé que la population n'était pas contente de cet état de fait. Et même si politiquement les choses sont compliquées parce qu'on a des institutions qui sont captées par la bourgeoisie, moi je pense que toute une partie de la population est prête à changer de système. Et d'ailleurs, les sondages le montrent. En France, ces gens ne sont pas hyper favorables au capitalisme. Et j'ajoute à ça évidemment la question du changement climatique. On le voit bien que l'économie capitaliste et la façon dont fonctionne la société ne nous permet pas ni de freiner, ni de nous adapter au réchauffement climatique. Et donc, il devient de plus en plus évident qu'on va devoir changer de modèle.
Et pourtant, puisque tu parles des sondages, Nicolas, j'ai l'impression que dans les préoccupations des Français, des concitoyens, évidemment qu'il y a le changement climatique, mais il y a surtout, dans un premier lieu, tout en haut de la liste, le pouvoir d'achat. Et du coup, les partis qui répondent, qui semblent, en tout cas dans l'esprit des gens, répondre à ça, sont pas des partis écologistes, par exemple.
Si certains peuvent l'être, moi je pense que la question du pouvoir d'achat et la question de l'écologie est liée. Moi j'aime bien dire pouvoir de vivre, parce qu'en fait, pouvoir d'achat, on a l'impression que c'est qu'on veut du pouvoir pour pouvoir acheter des
Ouais.
trucs.
Et exister seulement en achetant.
Oui, c'est ça. Alors
Voilà.
qu'en fait, comme si en fait le pouvoir d'achat c'était pouvoir s'acheter un nouveau gadget. En fait, non, on est au stade où c'est le pouvoir de vivre, au sens où ce qui stresse les gens en ce moment, c'est le prix de l'alimentation et du logement. Donc, c'est absolument légitime et compréhensible que ça soit des priorités. Ça l'est pour moi aussi. Pour moi, les deux sont liés. C'est-à-dire que le système capitaliste il crée effectivement des pénuries de pouvoir de vivre pour toute une partie de la population, parce que une minorité de la population s'enrichit. Enfin, le lien entre inflation, par exemple, et explosion des dividendes en ce moment, il est avéré. Enfin, c'est quand même fou qu'on soit dans une période où le prix de l'alimentation est devenu très élevé au point que certains se privent de repas, et qu'en même temps, on n'ait jamais versé autant de parts du profit aux actionnaires du CAC 40. Donc, en fait, les deux sont parfaitement liés, et je pense que toute une partie de la population est consciente que ce système, il est à abattre. Et peut-être que la raison prioritaire, ça va être pour le pouvoir de vivre, ce qui est normal, c'est notre instinct de survie, mais il se trouve que ça coïncide avec les intérêts de notre habitat naturel.
Alors, tu dis on peut changer ce système, mais nous, à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire pour le changer? Comment le changer? C'est quoi la recette?
Moi, avec mes amis de Frustration Magazine, on n'est pas fermé, on n'est pas dogmatique, mais il nous semble qu'il y a une solution à explorer. Alors évidemment, il y a la solution électorale, ça c'est, on va dire, la version légale et plutôt valorisée.
Elle arrive dans 2 ans et demi.
Bah, en plus, c'est quand même la solution électorale, c'est une sorte de coup de poker tous les 5 ans sur lequel on a peu de maîtrise et sur lequel la bourgeoisie excelle. Donc c'est forcément compliqué. Par contre, ensuite, il y a la solution révolutionnaire qui consiste à à travers des mouvements sociaux massifs qui passent par toute une série de procédés légaux ou extra-légaux, permettent de mettre à bas les rapports de production et puis de changer les rapports de pouvoir dans la société. Et ça, au cours de l'histoire, ça a fait ses preuves à plusieurs reprises et ça a permis soit de complètement changer des sociétés, soit en tout cas de rétablir un petit peu l'équilibre entre les plus riches et les plus pauvres, voire rétablir beaucoup. Moi, je pense que ça, c'est une solution à explorer. Donc, à notre échelle, c'est quoi ? C'est sur son lieu de travail ou sur son quartier, etc. C'est d'arriver à contrecarrer les logiques capitalistes. Pour ça, il y a beaucoup de moyens. Hein. Donc, sur son lieu de travail, c'est faire en sorte que les actionnaires s'en mettent moins les poches.
Mais comment faire ? Imaginons, par exemple, allez, un ouvrier qui, une ouvrière qui va travailler, confectionner des sacs Louis Vuitton tous les jours dans son atelier. Il y en a pas mal en France. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Qu'est-ce qu'elle peut changer pour changer ça ?
Bah, y a énormément de choses à faire et nous, on essaie en tout cas de remettre au goût du jour un certain nombre de pratiques. Donc évidemment, il y a le syndicalisme. Le syndicalisme, on sait que c'est une pratique qui n'a pas le vent en poupe parce qu'en fait...
Et pourtant, lors de la réforme des retraites, on a vu l'utilité d'une union syndicale dans la rue. Et on a vu que ça n'a pas marché.
Et on a vu son échec, ouais. Voilà. Et c'est pour ça que dans le dernier numéro papier de frustration, on a beaucoup réfléchi sur où en est le syndicalisme et puis comment on pourrait faire les choses un petit peu autrement pour que le syndicalisme ne soit pas dans des logiques perdantes. Notre thèse, c'est de dire que le syndicalisme a été tellement intégré dans les institutions à travers, par exemple, ce qu'on appelle le dialogue social, qu'en fait, il a été complètement neutralisé par le patronat. Et ça, beaucoup de gens le voient. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, le syndicaliste de ton entreprise, ce n'est pas la personne qui va se battre avec de plus de virulence. Parfois, c'est aussi quelqu'un qui va essayer de ménager la chèvre et chou parce qu'en fait, il est quand même très proche du patron, pas parce qu'il trahit, mais parce qu'en fait, il est intégré dans des instances où le dialogue est plus valorisé que la confrontation. Donc la question, c'est comment on fait en sorte que cet ouvrier ou cette ouvrière qui travaille chez LVMH, il ait d'autres recours. D'autres recours, ça peut être d'autres façons de faire des collectifs de travail. Et nous, on encourage finalement à reprendre un peu la lutte à la racine, quoi. C'est-à-dire faire des petits groupements entre collègues, se voir le soir pour réfléchir à comment on peut travailler autrement, comment on peut s'entraider face à la violence de telle ou telle mesure, de tel ou tel procédé, de tel ou tel chef. Imaginez vraiment quelle production on aimerait faire plutôt que c'est ça qu'est le VMH, par exemple. Voilà, beaucoup de gens, pendant l'épidémie de Covid, des ouvriers, ce sont, par exemple, dans l'aéronautique, il y en avait beaucoup qui se rebellaient, qui disaient pourquoi on continue à faire des pièces d'avion alors qu'on pourrait faire des respirateurs. Voilà, ça, c'est un mouvement à encourager.
Ouais. Correspondait aussi, Nicolas, à un moment donné, à un instant T, une crise, une pandémie mondiale aussi.
Absolument. Mais pour moi, les questions qui ont été soulevées à ce moment-là sont toujours valables. Pourquoi les gens qui ont les métiers les plus pénibles sont ceux qui sont les moins bien payés ? Pourquoi on produit autant d'objets alors que tout peut s'arrêter à tout moment ? Voilà, ce genre de questions-là, il faut continuer à se les poser. Et peut-être que le cadre syndical institutionnel n'est pas le meilleur et qu'il faut reprendre un peu des collectifs plus informels. Et nous, en tout cas, à Frustration, on essaie de réfléchir à ces solutions qu'on puisse ensuite proposer. Et dans le livre que j'écris en ce moment, je bosse vraiment là-dessus. C'est-à-dire comment on se réarme, par exemple, sur son lieu de travail pour réussir à infléchir un peu la direction que prennent nos directions, par exemple.
Finalement, tu réfléchis déjà au monde d'après.
En fait, je crois que ce qu'on sait des révolutions, c'est que souvent, quand il y a eu la transformation d'un système, les institutions nouvelles étaient déjà en germe, quoi. C'est-à-dire il y avait déjà des groupements qui commençaient à gérer la société parallèlement. Et je pense que ça, c'est quelque chose à reprendre en main petit à petit. C'est-à-dire déjà mettre en place les institutions qu'on aimerait voir dans une société d'après. Il y a des gens qui tentent des choses, par exemple la sécurité sociale de l'alimentation, c'est-à-dire des gens qui expérimentent localement le fait qu'on puisse être remboursé pour acheter des fruits et des légumes ou même de la viande, que sais-je, pour pouvoir cibler ces achats auprès de producteurs vertueux, etc. Il y a ce genre d'initiative-là, il y a de nombreux collectifs qui se créent un peu partout et qui, pour moi, pourrait prendre une sorte de plus grande puissance au niveau national pour faire en sorte qu'au moment où on renverse le pouvoir, il y ait déjà des institutions qui puissent prendre le relais, que ce ne soit pas une page blanche. Je pense que ça ne se passe jamais avec des pages blanches.
Revenons sur Frustration, puisque tu as beaucoup parlé de frustration. L'aventure, elle commence quand pour toi et elle vient avec une nécessité ?
Oui, ça a commencé il y a longtemps, ça a pris beaucoup de temps. Ça a commencé en 2013. à l'époque, en 2013, c'est un contexte particulier, puisque c'était le moment où il y avait la manif pour tous. Oui. Donc en fait, le pays était scindé en deux sur des grands enjeux identitaires. Oui. Moi, j'y prenais ma part, évidemment, en défendant le mariage pour tous. Mais force était de constater que la question sociale était complètement effacée au profit d'autres types de questionnements qui étaient nécessaires, mais... la question sociale était effacée, elle l'était aussi d'autant plus facilement que les partis de gauche au pouvoir avaient plutôt intérêt à l'effacer puisqu'ils menaient une politique de droite. Et donc nous, on voulait remettre en avant la question de la lutte des classes parce qu'il nous semblait que c'était un prisme d'analyse de la société.
Et de cette manif pour tous aussi, qui était aussi quelque part une lutte des classes ?
Oui, ça l'était d'ailleurs, hein, quand on y pense. Hein, la manif pour tous, c'était la bourgeoisie conservatrice qui était mobilisée. Hein. Mmh. Certes, ils étaient très nombreux, mais parce qu'ils étaient venus avec tous leurs enfants. Et puis, puisqu'ils s'organisaient, parce qu'on a vu que la bourgeoisie, elle était organisée.
Elle savait le faire.
Elle savait le faire. Bah oui, elle a des paroisses, elle a des scouts.
Elle a des autocars.
Ouais, elle a des autocars. Elle a de l'argent.
Ouais.
Voilà, elle a beaucoup d'argent. Donc, en fait, elle peut faire venir 1 million de personnes sur Paris, comme ça, en claquant des doigts. Mmh. Ça a quand même été une démonstration de force de la bourgeoisie, la manif pour tous, quoi. Pas seulement une démonstration homophobe, c'était aussi une démonstration de classe.
Je fais une parenthèse hors frustration, mais toi, à titre personnel, tu l'as vécu comment, ce moment-là ?
Quand même comme un moment d'affirmation. Hein. Je pense que j'ai dû faire mon coming out dans la foulée ou pas longtemps après. Mm. Parce que, et c'est pour ça que c'est pas rien, ce genre de moment. C'est aussi un moment de visibilisation de l'homosexualité, des bisexualités, etc. Et ça change quelque chose, quoi. C'est-à-dire, au moins, tout le monde en parle. On voit qu'il y a de l'antagonisme. Ça pousse les gens à se positionner. Donc, c'est aussi un moment de clarification. Tu vois sur qui tu peux compter et sur qui tu ne peux pas compter, aussi. Ça m'a permis de voir qui était...
Autour de toi, tu veux dire ?
Oui, même autour de moi. Mmh. Par exemple, dit « Oh, bon, on s'en fout de tout ça », ce qui est quand même super violent. Il y a ceux qui ont des empathies pour les homophobes, finalement.
Ah ouais ?
Ouais, moi, j'ai trouvé ça. Alors, dans mon entourage familial, par exemple. Sur mon entourage familial, ça m'a permis quand même de voir que, bah, quand même, ils avaient évolué sur toutes ces questions, mmh. et que, mis face, en fait, à la violence de l'homophobie catholique, eh ben, eux, ils se sont positionnés vraiment contre ça. Donc, c'est, peut-être que ça m'a aidé de ce point de vue-là.
Revenons sur frustration. Donc, frustration naît suite à ces grands mouvements-là, la manif pour tous ?
Oui, avec donc, l'idée de ramener la question sociale, la question de la lutte des classes. Et on faisait un constat à l'époque, c'est qu'en en fait, il n'y avait pas vraiment de publication qui était accessible au grand public sur ces sujets-là. Soit il y avait des publications universitaires extrêmement ardues. Voilà, je prends toujours l'exemple du Monde diplomatique. Moi, j'y suis abonné, j'aime bien le recevoir, mais
c'est
voilà.
Technique.
Voilà, il faut plusieurs heures pour lire un article. Le journal est tellement immense qu'il n'est même pas fait pour être lisible dans les transports. Il faut, il faut un grand canapé ou un grand bureau. Donc ça, c'est... Il y avait cette absence. Et puis, ou alors, voilà, soit il y avait des choses très universitaires, soit il y avait des choses très militantes. Donc dans les deux cas, ça nécessitait d'avoir déjà des pièces du puzzle pour pouvoir le comprendre. Nous, on voulait... l'ambition de cette publication, et qui est toujours intacte, c'est de faire des articles où on peut n'avoir aucun élément préalable sur le sujet pour le comprendre et s'y sentir accueilli. Et en fait, ça reste une dimension très importante. On appelle ça de la critique sociale pour le grand public. C'est qu'on partait de quand même ce constat que sur toutes ces idées anticapitalistes et les idées de lutte des classes, il n'y avait que des publications qui étaient finalement accessibles à des bac plus 3, bac plus 5. Or, les premiers concernés, enfin, tout le monde est concerné par la lutte des classes, mais c'est potentiellement, oui, des gens moins diplômés et qui n'ont pas un bac plus 12 en militantisme. De nos jours, les militants, c'est très, très peu de monde. Donc, on ne peut pas se contenter de faire des publications qui s'adressent qu'aux militants. Donc, nous, c'est vrai qu'on a cette publication grand public. Et attention, grand public, ça ne veut pas dire vulgarisation, comme on le dit souvent, parce qu'en fait, on fait des articles pointus, on aborde les sujets sous des angles originaux et ils sont très documentés. Mais par contre, il y a un vrai travail sur l'écriture, pour que l'écriture soit la plus fluide possible. Et ça, ça reste un objectif qui est poursuivi. Et ça a pris beaucoup de temps, parce qu'il a fallu des années et des années pour atteindre un style, le style Frustration Magazine, qui est maintenant un style qui existe et qui est aussi mon style d'écriture. Et en fait, pendant longtemps, Frustration, ça a été simplement un magazine diffusé de façon trimestrielle, mais avec un très faible tirage, parce qu'on n'avait pas d'argent. Mais en fait, c'était un peu notre école d'écriture à nous. Ça a été une façon, entre amis, de s'initier à l'écriture, qui est ni une écriture journalistique, ni une écriture universitaire, ni une écriture militante. C'est un mélange de tout ça. Et j'aurais du mal à qualifier cette forme-là, mais ce travail sur la forme était très important. Et puis, ça nous a permis aussi de clarifier nos idées sur le fond, pour apporter vraiment une analyse de la société qui est en fait une grille de lecture. C'est-à-dire, quand on lit un article de Frustration, on a une grille de lecture qu'on peut adopter et qu'on peut ensuite utiliser dans sa vie courante, pas pour comprendre ce qui nous arrive, et encore une fois, toujours comprendre et combattre. C'est jamais purement comprendre.
L'idée, ça a donc été de fournir des clés.
Oui, fournir des clés, mais encore une fois, avec aussi cette idée très importante que, et ça rejoint ce que je disais sur la sociologie, que la lutte des classes, c'est pas une vérité qui est extérieure, quoi. C'est pas le mythe de la caverne de Platon, où les gens, ils sont dans leur caverne, ils voient que les ondes de la réalité, et nous, on doit leur apporter la lumière, on doit leur montrer le monde extérieur. Moi, je pense que la lutte des classes, tout le monde la vit, certains la vivent plus intensément que d'autres. Et donc, en fait, il s'agit pas tant d'apporter des clés que de venir qualifier ce qu'on observe et faire en sorte que les gens se sentent légitimes de ressentir ce qu'ils ressentent. Par exemple, légitime de ressentir de l'injustice, légitime de vouloir que les choses se passent autrement, voilà, légitime d'être en colère. Donc c'est très important dans la mission qu'on se donne, c'est de venir légitimer avec des mots des réalités vécues.
C'était aussi un pari économique ?
Oui, d'avoir une publication, tu veux dire, qui tient
oui,
la route.
Oui.
Bah oui, c'est-à-dire que, en fait, ça a été très progressif pour le coup. Tu vois, c'est pas un récit, là, je te fais pas un récit de start-upper, parce qu'on n'a jamais eu une mise de départ.
Donc... Et je pense que vous l'avez pas vu comme une start-up du tout.
Non, pas du tout. Et
justement.
En fait, il y a eu un pari, si à un moment donné, on peut mettre ça dans le storytelling, c'est que donc, ça a été très longtemps une publication bénévole. On a tenté le papier pendant longtemps. Au bout d'un moment, le papier, c'est devenu trop cher, même sans se payer, donc on est passé sur le web. Et puis là, on est revenu sur le papier, sur une publication annuelle. Mais surtout, ce qu'on a lancé comme pari il y a 2 ans, pour le coup, c'est de sortir du bénévolat en mettant en place un système d'abonnement de soutien. Donc les gens payent pour quelque chose qui reste gratuit pour tout le monde.
Et ça... Le pari, il est vraiment là, en fait.
Là, il y a un pari, c'est de dire, la plupart des médias sont récupérés par des milliardaires, l'information n'est plus, enfin, si tant est qu'elle l'ait été, en tout cas, n'est pas fiable ni neutre. On manque de médias anticapitalistes, donc ce qu'on propose aux gens, c'est en quelque sorte de cotiser pour que ça existe. En recevant pas grand-chose au retour. Enfin, c'est pas comme un abonnement Netflix où soit vous l'avez et vous y avez accès, soit vous l'avez pas et vous n'y avez pas accès. Là, tout ce qu'on publie sur le web est en accès libre et gratuit, sans publicité. Et puis, nos abonnés reçoivent bien sûr des gratifications, notamment ce magnifique numéro papier et puis des affiches inédites, etc. Mais je veux dire, ils reçoivent pas grand-chose au regard de ce qu'ils donnent, c'est-à-dire entre 5 et 15 euros par mois. Sauf que nous, ça nous donne un budget mensuel.
Qui vous permet de bosser.
Et qui nous permet de bosser, et surtout qui nous a permis de nous rémunérer pour notre travail. Alors, petit à petit, hein, on se rémunère. Tous les 3 mois, on voit où on en est du niveau d'abonnement, et on décide comment on attribue cet argent en fonction de qui veut bosser plus, etc., en fonction de qui a d'autres activités, etc. Et moi, par exemple, je suis rémunéré à quasi temps plein pour frustration depuis décembre. Donc, ça a changé beaucoup ma vie, puisque je suis rédacteur en chef de ce magazine à temps plein. Donc, ça change aussi ce qu'on peut faire. Et donc, l'idée, on propose aux gens, c'est plus vous nous donnez, plus on peut augmenter la voilure. Mais en même temps, on a aussi ce modèle pas stressant qui est de dire... ça sera en fonction de ce que vous nous donnez. C'est-à-dire que si à un moment ça arrive, on se contentera de ce qu'on a. Évidemment qu'on voudrait voir les choses en plus grand, mais on n'a pas d'objectif. Nous, l'idée, c'est de diffuser toujours plus et de faire toujours mieux. Mais on est déjà très content de ce qu'on fait, quoi.
Je voudrais qu'on vienne aussi sur un autre chose. C'est Parasite. C'est ton premier livre ?
En fait, c'est mon quatrième livre. D'accord. Mais avant, j'ai fait des livres qui étaient dans des plus petites maisons d'édition, même si le précédent, La Guerre des mots, c'était une super maison d'édition. On va dire, ce n'est pas des livres qui ont eu des gros succès comme Parasite.
Parasite, il y a un vrai sous-titre sur la bourgeoisie qui est extrêmement engagé, qui dit tout, en fait, quasiment. C'est vraiment un livre militant, Parasite ?
Moi, comme tout le monde, en fait, l'éducation de tout le monde se rapproche un peu de la bourgeoisie. Parce que,
ah ouais ?
Oui, parce qu'en fait, la bourgeoisie, c'est la classe qui... C'est la classe leader, quoi. Y compris sur le plan idéologique. Donc, en fait, tous les parents, quasiment, en fait, essaient de tendre vers cette classe-là. Donc, quand je parle de mes parents qui avaient cette bonne volonté culturelle, par exemple... Bah, comme beaucoup de parents, quoi. Ils voulaient que leurs enfants fassent des études supérieures. Ils voulaient que leurs enfants se consacrent plutôt... et c'est plutôt d'adopter les codes de la bourgeoisie que les codes du sous-prolétariat. comment dire, on avait une discussion il n'y a pas longtemps avec mes parents sur les vêtements, par exemple. J'en demandais pourquoi ça les révulsait tant, les marques. Souvent, les parents n'aiment pas les marques. En fait, quand ils disent les marques, ils disent Nike et Adidas.
D'accord.
Mais parce qu'en fait, ça fait référence un peu... je ne sais plus quelle était la conclusion de notre discussion, mais moi, mon hypothèse, c'est qu'un peu, les marques, si les parents, ça les saoule, alors déjà, c'est que ça coûtait plus cher à l'époque, ce qui n'est plus vraiment vrai maintenant, mais ça fait un peu cité, quoi. Donc, en fait, et souvent, les ados sont un peu attirés par la culture street, etc. Et les parents ont plutôt envie, parce qu'ils veulent les voir réussir professionnellement, qu'ils s'en détachent. Donc, quand je dis que tout le monde a un peu une éducation bourgeoise, c'est que la bourgeoisie, ça reste la classe vers laquelle tous les regards sont tournés. Et ça, la sociologie l'a pas mal expliqué. Par exemple, nos pratiques culturelles et même sportives et de loisirs sont hyper définies par ce que la bourgeoisie a tendance à mettre comme quelque chose de bien. Par exemple, le ski, la montagne, à la base, c'est la bourgeoisie et l'aristocratie qui y sont allés les premiers. Mmh. Et ensuite, tout le monde a voulu un peu les imiter. Et le ski, ça reste quelque chose que tous les parents ont envie d'offrir à leurs enfants. Alors en fait, c'est plus compliqué, c'est cher, etc. Mais c'est quand même vu comme quelque chose d'hyper désirable. Donc, quand je dis qu'on a tous un peu une éducation bourgeoise, c'est que déjà, on va tous à l'école publique ou privée. Alors, l'école privée, c'est pire, mais l'école publique, on nous enseigne quand même aussi les valeurs de la bourgeoisie. Enfin, ouais. On nous enseigne la bonne façon de se tenir, la bonne façon de parler, de gommer ses accents, etc. etc.
Mais si j'y vais par là, Nicolas, le simple fait aussi d'avoir une voiture... C'était aussi quelque part quelque chose qui était réservé à la bourgeoisie qui s'est démocratisée maintenant. On peut étendre ça quasiment à tout.
Oui, bien sûr. Alors après, il faut faire attention, et c'est là que Parasite intervient, c'est que, à force, on peut être un peu relativiste, c'est-à-dire se dire finalement, est-ce qu'on n'est pas tous un peu des bourgeois ? Et ce discours, je l'ai pas mal entendu. Et là-dessus, Parasite, il vient redonner de la clarté là-dedans. Donc c'est vraiment un livre, alors je ne sais pas si c'est militant, mais c'est politique, c'est-à-dire qu'il vient dire il y a une réalité qui nous est embrouillée, cette réalité des luttes des classes est embrouillée, la lutte des classes on l'aperçoit tous à des degrés divers, on a tous soit des chefs, soit peut-être on est chef, etc. Mais par contre elle est parfois difficile à percevoir, parce qu'il y a énormément de théories concurrentes, voilà. Il y a des théories concurrentes à la lutte des classes, il y a des théories identitaires. Par exemple, qui va avoir tendance à dire les grandes différences dans la société française, c'est finalement les différences entre les musulmans et les autres. Il y a des théories, on va dire, culturalistes. Par exemple, c'est de dire l'ennemi, c'est le bobo. Le bobo, donc, qui est un terme qui a été importé par l'extrême droite américaine, c'est un terme qui va plutôt stigmatiser les gens qui ont des comportements progressistes, par exemple, en les faisant passer pour des hypocrites ridicules. Voilà. Donc, il y a des théories concurrentes. Et il y a les théories conspirationnistes. Ça, c'est très important.
Et c'est de plus en plus important, malheureusement.
Oui, et en même temps, c'est parfaitement normal. Moi, sur le conspirationnisme, je suis très compréhensif. C'est-à-dire que, face au chaos actuel, on va dire, le chaos, il y a du chaos et il y a de la domination partout. Et donc, les gens vont faire des tentatives d'interprétation du monde. C'est normal.
C'est comme ça que toi, tu l'expliques, justement, le conspirationnisme ?
Oui, c'est-à-dire, pour moi, le conspirationnisme existe parce que par ailleurs, il y a vraiment des complots. Mais le conspirationnisme, il va réduire le complot à un petit groupe qui va, par exemple, être lié par une appartenance ethnique. Par exemple, le complot juif. Voilà, c'est une façon réductrice et évidemment antisémite, mais surtout très réductrice d'envisager, d'expliquer le capitalisme. On va dire, en fait, c'est pas un système économique, c'est les juifs qui veulent dominer le monde, par exemple. Ouais. Donc ces explications, elles viennent sur un vide compréhensif. Tout le monde perçoit de la domination, mais elle est en permanence niée par les institutions. Donc l'école nous dit non, il n'y a pas de... En fait, on est pris dans des discours contradictoires. On est à la fois dans une société où les plus riches captent de plus en plus de richesses et en même temps, dont les écoles disent « si tu travailles à l'école, tu vas réussir ». Or, c'est parfaitement faux et tout le monde voit bien que c'est faux. Donc, face à ça, on a envie de comprendre. Donc, ces théories concurrentes existent.
Elles apportent une réponse.
Elles apportent...
Fausse, mais une réponse.
Oui. Moi, je me souviens, quand j'étais ado, par exemple, moi, j'ai beaucoup regardé, à l'époque, les théories conspirationnistes qui cartonnaient. C'était les vidéos sur le 11 septembre.
Ouais.
Et donc, moi, j'en regardais avec mes amis, etc. Je me souviens, ça m'avait beaucoup marqué. J'étais assez sensible à ça. Ces théories disaient globalement, les États-Unis sont responsables de tous nos malheurs et le gouvernement américain ment en permanence pour modifier la réalité. Et puis, c'est peut-être lui qui a fait les attentats du World Trade Center. Mais en fait, il y a quelque chose de vrai là-dedans. C'est-à-dire que, oui, le gouvernement américain et ces services secrets mentent en permanence, on fait destituer des gouvernements en Amérique latine, on crée des trafics de drogue, enfin, tout ça est réel, hein, c'est pas du tout...
On mentit sur la présence d'armes nucléaires dans certains pays...
Et c'était, et voilà, moi, quand j'étais au collège, au lycée, c'était effectivement cette invasion d'Irak motivée par un motif qui s'est avéré complètement faux, c'était du mensonge. Donc, en fait, que derrière, des gens, par extension, imaginent que le gouvernement américain ait fait sauter, en réalité, les tours du World Trade Center et envoyer un missile sur le Pentagone. Évidemment, on peut dire que c'est complètement fou, mais ça part pas de nulle part non plus. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, les théories conspirationnistes, j'ai vu quels effets elles avaient à une époque où moi, j'avais aucune autre grille de lecture que celle-ci. Je connaissais pas du tout la lutte des classes, etc. Donc, la grille de lecture, par exemple, par l'impérialisme américain, elle est puissante parce qu'elle permet de comprendre tout un tas de choses. Pour autant, ça résume pas tout. Voilà. Ne serait-ce que parce que nous avons une bourgeoisie bien française, dont je montre qu'elle est bien de chez nous, en fait. Hein. C'est pas les Américains qui dominent le monde, c'est pas les Juifs. Non, on a des bons patrons français, catholiques, blancs, bien sous tout rapport, qui sont sans doute très sympathiques. Mais c'est eux qui nous font la misère, pour une grande part. Et donc Parasite, il vient rappeler ça. Il vient donner du corps à ça, et il vient aussi atomiser les théories concurrentes. Pour moi, ces théories concurrentes, elles font du mal, évidemment. Elles génèrent du racisme, elles génèrent, beaucoup, beaucoup de racisme, hein, du repli identitaire, de la division entre les gens. Et donc, Parasite vient apporter de la clarté là-dedans et vient faire en sorte que les gens puissent ouvrir le livre, se retrouver dans ces situations, retrouver le monde qui les entoure, l'analyser,
le comprendre.
Et donc, une fois qu'on y voit plus clair, en fait, quand on y voit plus clair, on a la main mise sur les choses, quand même. Même si, évidemment, ça ne suffit pas. Voilà.
Oui, parce qu'il y a le constat. Le dresser avec justesse, c'est une chose, et y répondre après.
Eh bien oui, déjà le dresser. Oui. Enfin, moi, un livre ne répond qu'à ça. Hein, le livre, c'est pas une...
En tout cas, le sociologue ne répond qu'à ça.
Oui.
Après, c'est de la politique.
Voilà, alors après, le livre, ce n'est pas de la pure sociologie, au sens où ce n'est pas neutre. Il y a une analyse politique dedans, il y a des préconisations. Mais moi, par exemple, je pense que les mots restent que des mots. Enfin, ils ont énormément d'importance, mais par exemple, tout le monde adore dire « la sociologie est un sport de combat » parce que Bourdieu disait ça ou je ne sais pas quoi. Oui. Bah non, la sociologie, c'est la sociologie, et les sports de combat, c'est les sports de combat. La mission qu'on se donne à Frustration et que je me suis donné avec Parasite, c'est d'identifier les lignes de démarcation et les camps. Après, on peut donner des conseils pour faire cette guerre des classes, et c'est ce qu'on essaie de faire, c'est ce que j'essaie de faire plus particulièrement sur la question du travail dans le bouquin que j'écris actuellement. Mais ensuite, faut le faire, quoi. Et ça, je vais pas aller partout pour le faire à la place des gens. C'est ça, c'est la limite des livres. Hein. Soit ils sont utilisés, ils provoquent de l'action, soit pas. Et ça, tu peux pas vraiment savoir.
Parasite qui vient de sortir en poche, je tiens à le préciser, ça c'est important. Le prochain c'est quoi alors, le travail ?
Ça va être sur le travail, donc pour te décrire vite fait la thèse en avant-première, hein, c'est de dire que il y a des discours politiques très culpabilisants sur le travail, les Français travailleraient moins, traîneraient, etc. etc.
On l'entend beaucoup.
Et en fait, c'est pas si faux. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une baisse de la productivité au travail en France. Donc je pense qu'en fait, il y a une sorte de révolte larvée sur le travail, mais qui est une révolte qui est liée au fait que le travail s'est durci, contrairement à ce qu'on dit. Il s'est intensifié. Psychologiquement, c'est devenu de plus en plus difficile. Beaucoup plus de gens sont exposés à la violence au travail, à la souffrance, au surmenage, vraiment à la maltraitance. On a un travail en France qui est maltraitant. Donc le livre décrit cette maltraitance, essaie de l'expliquer par rapport au grand mouvement historique du capitalisme. Et puis voilà, de donner des grilles de lecture. Moi, je travaille par exemple, là en ce moment, pour donner un exemple, hein, sur le chapitre sur lequel je travaille, c'est sur les chefs. J'essaie de comprendre où on en est sur la hiérarchie au travail en France. Or, ça ne va pas du tout. On est sur des styles de management qui sont de plus en plus hiérarchiques ou de plus en plus bureaucratiques. Bref, où on fait de moins en moins confiance aux travailleuses et aux travailleurs et on leur retire de plus en plus de pouvoir d'agir. Et j'essaie un peu de faire une typologie des différents types de chefs. L'idée, c'est que la personne qui lise ce bouquin puisse se retrouver, puisse retrouver les situations qu'elle vit dans son travail et puissent les expliquer et puis essayer de trouver des façons de s'en sortir. Donc c'est là pour moi, c'est un livre qui redescend d'un cran par rapport à Parasite. Parasite, ça explique vraiment les grands mouvements de la société. Pour moi, le bouquin sur le travail, là, j'aimerais qu'il permette de comprendre vraiment directement ce qui se passe dans ton entreprise ou ton service ou ton association, et pour sortir des discours un peu dont on est saturé et puis essayer de se révolter ou en tout cas de changer les choses, quoi.
Il sort quand?
Bah, là, je suis en plein dedans, donc ça dépendra de mon travail. Normalement, il sortira à l'automne 2024, si tout va bien.
Nicolas, tu connais le principe du podcast. La dernière question, c'est ton moment. C'est le mot de la fin et c'est ton moment.
D'accord, alors moi, je pense que comme j'ai le nez dedans, peut-être que je voudrais m'adresser à tous les gens qui sont en souffrance au travail. Soit ils sont dans un métier qui les use, ils rentrent chez eux, ils sont crevés, ils savent pas pourquoi, ou alors ils savent pourquoi, mais ils savent pas comment faire, ou alors ils ont quitté leur boulot, ils sont complètement sur les rotules et ils sont dans une phase de reconstruction, mais ils y parviennent peu, ou alors ils envisagent de changer de travail. Bref, peut-être que ce que j'aimerais leur dire, c'est que bah, ils sont pas seuls là-dedans. Contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, c'est pas un problème psychologique qu'ils traversent simplement. C'est pas leur faiblesse, c'est pas que c'est des gens pas assez ambitieux, pas assez stables émotionnellement, pas assez résilients. Je voudrais vraiment leur dire ça. Ce qu'ils vivent pris isolément et qui vivent dans une énorme solitude, eh bien, ils sont pas du tout les seuls. C'est un fait social, quoi. C'est-à-dire, ça les dépasse. C'est vraiment un fait qui pèse sur énormément de gens. C'est pas de leur fait. C'est le résultat d'un gros dysfonctionnement du système actuel, mais qui est malheureusement cohérent avec le fonctionnement du capitalisme. Bref, en tout cas, ils sont pas seuls par rapport à ça. Ils peuvent s'en sortir, peut-être pas seuls. En tout cas, ça vient pas d'une faiblesse individuelle. Ils n'ont pas à culpabiliser pour ça ou à se sentir comme des merdes. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup trop vu et j'aimerais vraiment que ça change. Et j'espère que mon bouquin pourra les y aider.
Nicolas, je reviens sur deux choses. Tu as parlé de psychologie et tu parles très souvent aussi de santé mentale. C'est quelque chose d'important pour toi, justement, cette santé mentale, que ce soit au travail ou en règle générale dans la société, dans la vie de tous les jours.
Oui, vraiment, parce que...
Tu as été confronté à cette problématique-là, toi?
Absolument, ouais. J'ai été confronté, donc déjà j'ai été, pendant plusieurs années, je suis encore en freelance, donc je suis expert en santé au travail, donc j'interviens dans des entreprises qui ont des réorganisations ou bien quand il y a des risques constatés pour la santé des salariés, et notre
Des risques
méthodologie...
psychosociaux.
Oui, des risques psychosociaux ou physiques, mais le plus
Oui.
souvent c'est des risques psychosociaux, et j'ai donc des entretiens avec des gens de tous secteur. Et j'ai vu des gens qui allaient très mal et qui étaient très seuls par rapport à cette souffrance mentale. Voilà. Et ça, je trouve ça très dur. Au-delà de ça, la souffrance mentale augmente en France comme ailleurs. J'y étais confronté personnellement. Moi-même, hein, j'ai traversé des phases difficiles, plus sur des questions d'anxiété. J'ai été en couple très longtemps avec quelqu'un qui a toujours des gros problèmes de dépression. Et ça m'a beaucoup touché. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre, et c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre parce que justement c'est antagoniste avec l'idée néolibérale et capitaliste que quand on veut, on peut. Voilà, en fait, ce que nous dit la
Non,
souffrance
on ne
mentale,
peut
c'est
pas.
que quand on. Non, voilà, la dépression par exemple
Même
qui
si on
touche.
veut, parfois on ne peut pas.
Exactement, la dépression qui touche énormément de gens, c'est pas. Il suffit pas de se bouger pour que ça cesse, quoi. Donc pour moi, comprendre la souffrance mentale, c'est un peu anticapitaliste et je pense aussi même politiquement. C'est une question dont on doit se saisir. On va dire que l'argent ne résout pas tout. Alors, il se trouve que quand on regarde les stats sur la souffrance mentale, les riches vont beaucoup mieux que les pauvres, hein.
Oui.
Donc, malheureusement, l'argent fait un peu le bonheur. Mais voilà, par exemple, sur notre rapport au travail ou sur notre rapport à la vie, bah, il faut aussi examiner la façon dont notre santé mentale est dégradée par le système dans lequel on vit. Voilà. Et c'est très important de le mettre en valeur. Et je pense qu'il faut mettre en place des systèmes d'entraide bien plus forts qu'avant, puisque malheureusement notre système de santé est très inefficace sur ces questions-là. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui sont très seuls et il va falloir vraiment qu'on prenne ce sujet en main. Quand on est de gauche ou simplement qu'on veut changer la société, et bien il faut dès maintenant venir en aide à tous ceux qui subissent cette souffrance, seuls.
Tu viens de dire de gauche à l'instant. J'ai une dernière question, Nicolas, une réponse très courte. Dans 2 ans et demi, la France sera face à un choix. Est-ce que toi, tu te sens inquiet? Est-ce que tu as des motifs d'inquiétude?
Non, moi je suis très optimiste. Je pense même qu'il y a des chances qu'avant ces 2 ans et demi, on assiste à un changement de société.
Tu crois?
Oui, je pense qu'on vit dans une période révolutionnaire. Il n'y a jamais eu autant de mouvements sociaux que ces 10 dernières années dans l'histoire de France, ces 50 dernières années. Donc en fait, on est plutôt dans une phase d'explosion sociale. Je pense pas que les élections résolvent quoi que ce soit à ce stade. Par contre, les grands mouvements sociaux, si, et il va y en avoir d'autres, parce que ceux qui nous dirigent veulent nous faire la peau. Donc voilà, je suis plutôt optimiste sur le fait que il va y avoir du changement. Et contrairement à ce qu'on nous dit, c'est pas forcément l'agenda d'extrême droite qui dictera tout. Voilà.
Merci Nicolas.
Merci à toi.
Voilà, c'est tout pour cette très belle et riche rencontre avec Nicolas Framont, rédacteur en chef de Frustration Le Mag, mais également, je vous le disais, sociologue. Je vous souhaite une très très belle semaine. Avant de se quitter, je vous rappelle, et c'est très important pour nous, de noter le podcast sur l'application. N'hésitez pas, c'est ça qui fait évidemment progresser le podcast sur votre plateforme d'écoute, qu'il s'agisse d'Apple Podcast, de Spotify ou autre, évidemment. Et puis, on se donne rendez-vous très bientôt dans ces garçons-là.